Dis-lui, dis à l'agneau qui est souverain de régner dans ton cœur. Dis à Jésus que tu veux le voir régner dans ton cœur. Au-delà de tes ruines. Dis à Jésus, je veux identifier mes ruines. Et je veux bâtir avec elles. Seigneur Jésus, nous t'élevons parce que tu es digne d'être élevé. Il n'y a pas ton pareil dans les cieux et sur la terre. Tu dis et la chose arrive. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu prends le pauvre et l'indigent de la terre et tu le lèves. Et tu le fais asseoir avec les grands. Ô Seigneur, que ce soir, tu te sers de nos ruines pour rebâtir. Seigneur, que toute voix en dehors de la tienne se taise en nous et que tu parles. Les forteresses lâchent prise sur notre vie. Et que les ruines de la mentalité, les ruines ancestrales, ruines de la famille soient étalées ce soir. Et que tu nous prennes de là où tu vas nous prendre ce soir pour nous transporter dans le royaume du Fils de ton amour en Christ Jésus. Qu'un perdant devienne un gagnant sur la base de ce que tu vas accomplir au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, saisis-toi de nous. Que toi seul tu parles en ces lieux. Que ta parole qui est relâchée ce soir visite des personnes et qu'elles ne partent pas de ces lieux comme elles sont venues au nom de Jésus-Christ. Amen. Veillons nous asseoir. Rebâtis sur d'anciennes ruines. Rebâti sur d'anciennes ruines. Il ne s'agit pas d'un désir. Il ne s'agit pas d'un souhait. Mais il s'agit d'un impératif. Rebâti sur d'anciennes ruines. Lorsqu'on parle de rebâti sur des anciennes ruines, il faut au préalable comprendre que la ruine annonce même un échec. La ruine en elle-même parle de quelque chose qui a existé et qui n'est plus. Et dont on peut observer les décombres. Et sur la base des décombres, il faut rebâtir. C'est pourquoi il y a des préalables pour rebâtir sur d'anciennes ruines. Il faut faire appel à l'histoire ou à la genèse de la ruine. Pourquoi la ruine est-elle là? Dès le départ, elle n'était pas ruine. Elle était peut-être un édifice. Elle était peut-être un bâtiment qui faisait la fierté et qui avait une histoire. Elle était peut-être un haut cadre d'administration. Tu étais peut-être un haut cadre d'administration. Un grand commerçant. Un grand homme d'affaires. Mais aujourd'hui, tu n'as qu'un petit car qui ne peut même pas faire la ligne de Bamendjou. C'est là, il faut connaître la genèse de ta ruine. Si tu ne la connais pas, tu ne peux pas rebâtir, te servir du reste de la ruine pour rebâtir. C'est le préalable. S'il est vrai que hier on a appris, on a tiré bénéfice de nos échecs, et que l'échec n'est pas ta destinée, il t'est aussi possible
de rebâtir, même s'il existe de nombreuses décombres. Il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées. Tu as commencé des projets. Tu as engagé des choses. Et aujourd'hui, tu es couvert de honte à cause de ce que tu as engagé. Et ce n'est que des décombres qui parlent à ton cœur. Et quand tu regardes à tout cela, ton cœur est meurtri. Tu es attaché à tes exploits du passé. Et tu ne parles que de ta vie comme d'un album qu'on est en train de feuilleter. Au passé. Il est donc question ce soir, tout en se rappelant de ce qu'on a traversé et de ce que on observe qui parle à notre cœur, il faut rebâtir. Les ruines de Jérusalem ont parlé à Néhémie. On dit à Néhémie qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il a pris conscience de la désolation dans laquelle il dit, mes frères, venez, voyez dans le piteux état dans lequel nous sommes. Tu ne peux pas rebâtir si tu ne prends pas conscience que quelque chose a changé. Tu ne pars pas de la genèse de ce qui a été pour arriver à rebâtir. C'est le préalable. Les ruines de Jérusalem ont parlé à Néhémie, lui montrant la désolation de la nation d'Israël. C'est pourquoi cette promesse de Ésaïe 61, 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. En regardant de près ce verset, il faudrait bien le comprendre. C'est le point de départ pour la suite. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Lorsqu'on dit qu'ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, cela ne suppose pas qu'ils vont se contenter de la limite de la ruine. Ils vont prendre conscience de ce qui a engendré la ruine, aller au-delà de la ruine. Rebâtir sur d'anciennes ruines signifie se servir de ce qui a existé, mais aller au-delà de ce qui a existé. La ruine ne te donne pas des limites, mais la ruine te sert pour étendre tes limites. Si tu avais construit une petite case et que tu as mis un toit qui n'avait pas été bien fait, le torrent a enlevé le toit, la ruine là ne te dit pas de venir construire encore une case plus petite. La ruine t'invite à construire le duplex. Quand Néhémie est rentré, il n'a pas construit n'importe quoi. Il a construit avec un matériel de haute facture. Et lorsque tu veux rebâtir, il faut te servir de l'ancienne ruine, même des anciens matériaux, mais tu as besoin d'un matériel consistant pour rebâtir. D'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. Le relèvement signifie que la situation hantée, c'est-à-dire la situation ancienne, ne sera plus la même. On ne parlera plus d'elle. Imaginons tant soit peu que dans votre village, dans votre concession, il y a une vieille case qui s'y trouve.
Cette case qui était la case de votre père, elle est tombée. Vous maintenant, vous venez relever ces antiques décombres. Vous allez encore construire une petite case. C'est que vous n'avez jamais aimé votre père. Vous allez construire une grande case, une case imposante. Tout le monde, quand il descendra dans la concession, on ne lui dira pas, ça c'est la case du Père. Il connaîtra que ça c'est la case du Père. Ils le relèveront. Le relèvement suppose qu'on ne se limite pas à ce qui a été. On va au-delà de ce qui a été. Et on efface le souvenir même de ce qui avait été. C'est pourquoi, au lieu de rebâtir une petite case qui va vous rappeler la chute de l'ancienne, vous devez partir. Ça va vous rappeler que la chute n'a même pas existé. Donc, le texte également, on dit, ils renouvelleront des villes ravagées. Tu ne seras, à partir de la ruine, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. C'est une nouvelle personne qui sort de la ruine, mais qui a tiré profit des éléments ou du matériel de la ruine. Lorsqu'on parle donc de la ruine, cela suppose que quelque chose a existé. Pour diverses raisons, la chose est tombée en ruine. C'est pourquoi on parle d'anciennes ruines ou de décombres. Ces ruines-là seront relevées. Elles participent au renouvellement de ton être et de ta ville. Ceux qui ont connu la ville de Bafoussam pendant les années 1950, ceux qui voient Bafoussam aujourd'hui, si ses parents-là se relevaient, et voient Bafoussam qui devait se perdre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Les choses ont changé. C'est la ruine participe au renouvellement. Il n'y a que dans des pays anormaux où les ruines ne parlent pas. Il n'y a que dans des villages où on vit dans la coutume et dans l'aliénation que la ruine ne parle pas. Mais là où il y a des hommes normaux, créés selon la pensée de Dieu, la ruine n'est pas. C'est pourquoi ce soir nous allons d'abord identifier les anciennes ruines, car elles seront utilisées pour rebâtir. Mettre en valeur ce qui reste pour bâtir et planifier comment rebâtir. Identifie les anciennes ruines. Nous allons identifier 7 types de ruines. Et sur chacune des ruines, on va évoquer de façon sommaire les causes ou les origines. Il est donc question de faire l'état des lieux en identifiant les ruines. La première ruine, c'est la ruine morale ou les ruines morales. Lorsqu'on parle des ruines morales, il s'agit des valeurs éthiques, des valeurs de bienséance qui ont existé, qui ont été ton lot, ton partage, et qui maintenant, lorsqu'on te regarde, ça n'existe plus. Ce ne sont que des ruines qui restent. Un enfant qui était très poli, très respectueux, à un moment donné, il devient un délinquant. Il insulte tout le monde.
Il méprise les gens. Il les salue. La valeur éthique du respect qu'il avait, c'est pas. Et il est resté dans une ruine. Il en est de même. Et ces ruines morales sont causées par quoi? Trois éléments peuvent servir d'ancrage. Les perversions sexuelles sont le lot des ruines morales. Donc, cause généralement les ruines morales. On va voir cela dans Genèse 34, à partir du verset 1 à 10, mais particulièrement le verset 1 à 3. Dina avait abusé sexuellement et cela a failli créer des dégâts entre deux tribus. Ses frères qui étaient pieux et qui craignaient Dieu ont crié vengeance. Ils ont abandonné la valeur morale qu'il ne faut pas tuer. Ils étaient prêts à venger leur sœur. Et plus tard, l'un est allé abuser aussi d'une femme étrangère parce qu'on avait abusé sa sœur. On voit ça dans les perversions et également dans le suivisme des gens qui commencent à tolérer toutes choses. Lorsque vous commencez à tolérer un certain nombre de choses, vous entrez dans les ruines. La moralité n'existe plus. Un exemple très simple. Quelqu'un qui commence à comprendre la corruption. Il commence à comprendre la corruption, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il accepte que c'est normal de corrompre. Et que si vous ne l'avez pas fait, c'est que c'est vous qui êtes anormal. Du point de vue éthique, il est dans les ruines. Et ces ruines-là, s'il ne l'identifie pas, ce sont des ruines qui ont des tentacules, qui se transmettent au fur et à mesure que tu touches quelqu'un. C'est comme un peu la contagion. La ruine morale. Vous voyez les parents, certaines grandes dames aujourd'hui qui marchent en route presque nulle là, non? Entrez chez elles, vous allez voir comment les enfants marchent aussi. Elles marchent peut-être qu'avec les caleçons au salon. Ça, c'est la ruine morale. Or, avant, elles étaient bien habillées, elles couvraient toutes les parties de leur corps. Aujourd'hui, c'est l'exposition. On peut voir également le cas de David, qui dans sa délinquance a abusé de Bathsheba. David qui était pieux, qui craignait Dieu. Le voilà maintenant qui part regarder les gens qui se lavent. C'est la ruine morale. Alors, on parle également des ruines physiques. Il s'agit ici là des dégradations observées au niveau de la santé. Au niveau de votre santé physique ou même émotionnelle. À travers les apparences, ceci est causé par les abus et les excès. Je ne suis pas médecin, mais la Bible dit que si tu manges à l'excès, c'est la gourmandise, n'est-ce pas? Et si tu manges à l'excès, tu vas fatiguer ton estomac. Et si tu bois également des drogues, tu vas détruire ton système nerveux, tu seras déséquilibré. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui ont des cirrhoses de foie, qui ont beaucoup de maladies, n'est-ce pas? Ce sont les ruines qui peuvent être causées par des abus alimentaires.
Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons gourmands, pour que nous mangeons abusivement et que nous consommons tout ce que nous voyons. Il faut aller voir dans les lieux de deuil ou dans les enterrements. S'il n'a pas pris tout ce qui est sur les plats, les plateaux là, de là jusqu'ici, c'est qu'il n'a pas. Et quand il rentre, il commence à tenir son plat comme ça. Il s'assoit. Kitoko, il prend. Guinness, il prend. Vin blanc, il prend. Vin rouge, il prend. Tout ça. Ce sont les excès. Ça va donc, on va agresser notre corps. Il y a aussi le décapage ou la dépigmentation. On fait violence à notre épiderme. Comme si Dieu s'était trompé, n'est-ce pas? Dieu est arrivé un peu en retard. Parce qu'il a estimé que non. Il fallait faire violence à sa peau. Il faut se bronzer. Il faut. On violente la peau, n'est-ce pas? Et le jour où on dit qu'on doit vous opérer, on dit que non, vraiment, ça, on n'arrive plus à couper. C'est pas possible. Et vous dites que les gens ont mangé votre ventre, non? C'est pourquoi on ne coupe pas. C'est la violence, la ruine physique. Tu peux souffrir physiquement également, comme la fille de comme Dina, d'un viol où tu as même abusé une fille, tu l'as violée. Où tu as été violée et tu portes cette douleur-là, cette ruine. Et tu n'aimes même plus ton corps à cause du viol. Et quand tu vois un homme, tu le détestes parce que tu es dans la ruine. Mais on va voir comment bâtir sur la base de cette ruine. Sur la base de cette ruine. Tu as aussi été peut-être victime de maltraitance ou même de la malnutrition. Ça va entamer. Si tu manges mal ou si tu ne manges pas bien, tu seras malade. Physiquement, tu seras atteint. Et ton corps sera une ruine. On a aussi des ruines matérielles. Là, on va vite comprendre. Tu as fait des projets, tu as eu des investissements. Et tout ça en un laps de temps. Tu étais un donjon. Tu dépensais sans compter. Quand tu arrivais au bar, tu disais à tout le monde, un autre tour. Et les gens prenaient des tours. Maintenant, tu es l'ombre de toi-même. Tu es incapable de donner même un jus de 500 francs à quelqu'un. Quand tu regardes ton entreprise, tu vois les employés, tout ce que tu as employé aujourd'hui, ils te rappellent seulement ta ruine. Et tu dis, quand j'étais encore moi-même, tu étais encore toi-même quand rien, c'est la ruine là maintenant. Quand cette ruine matérielle est due à la mauvaise utilisation de ce que Dieu nous donne. On dépense de façon inutile l'argent que Dieu nous donne. Dans les jeux du hasard, le PMUC, combien de familles, combien d'enfants n'ont pas atteint le coup moyen eux parce que leur père jouait au PMUC. Papa, on m'a chassé de l'école à moins le 9, 8, le 6. Papa, j'ai pas le livre. Frère, à moins que j'allais gagner. Voilà la ruine. Tu as passé le temps à mettre tout l'argent de la famille dans le pari mutuel humain. Aujourd'hui, ce sont les élèves. Il va à l'école. Pari foot. On te donne 500 francs de manger. Tu pars. Tu dis que Barcelone va battre celui-ci. Chelsea va gagner. Quel est ton problème même? Et tu as la ruine physique. Tu es en classe, tu n'as pas mangé, tu ne peux rien comprendre. Voilà, on a des ruines émotionnelles. Là, c'est la catastrophe. Des ruines émotionnelles. Si vous n'en tirez pas profit et si vous n'en prenez pas conscience, elles peuvent vous conduire très rapidement au cimetière. Les ruines émotionnelles. Il s'agit des déceptions amoureuses, des carences affectives, d'un rejet. Tu es né, tu ne connais pas ton père génital. Et un jour, tu as l'occasion de le rencontrer. Et tu espères que tu vas dire enfin un papa qui est très sérieux, n'est-ce pas? Quand tu t'approches, tu te dis, papa, va voir ta mère, va voir ta mère. N'est pas la malchance. Chaque jour, tu rumines et tu en veux à ta mère. Comment a-t-elle osé aller avec un tel homme? Tu es meurtri parce que tu vois le rejet d'un père. Un père que tu as longtemps espéré. Tu as été blessé. Un jeune homme t'a promis le mariage. Vous avez tout planifié. Et un jour, il vient te dire, ça ne peut plus marcher. Tu dis pourquoi? Il dit, comprends comme ça. Tu dis, mais comment? Tu dois m'expliquer. Je dis, prends ça comme ça. Déjà, ne m'appelle plus. Et tu es déchiré au-dedans de toi. Et tu n'es qu'une épave. Tu as même trop fait. La prochaine fois, tu as dit non, parce que j'ai été un peu ferme dans la foi. Peut-être parce que je ne lui ai pas cédé une partie de mon corps. Je crois que la prochaine fois, celui qui vient, moi je lui donne même ça. Peut-être ça va résoudre le problème. Tu as échoué. Et le prochain arrive, tu dis... Il dit, fais d'abord un enfant, tu dis, me voici. Et après l'enfant, il te dit, mes parents ont dit que ça ne peut pas marcher. Et tu es déchiré. Et tu es déchiré au-dedans de toi. Tout simplement parce que, premièrement, dans la première ruine, tu n'as pas pris conscience que tu avais une valeur. Tu as commencé à te dévaloriser et comme tu t'es dévalorisé, alors tu t'es présenté moins cher et le moins offrant, tu t'es offert à lui. Il y a des personnes qui, à cause des blessures émotionnelles, des ruines émotionnelles, se livrent à tout vent. Elles n'ont plus de dignité ou ils n'ont plus de dignité. Tu as vu ta femme, celle que tu as dotée. Celle que tu as épousée, tu es allé devant le maire, tu es allé à l'église, tu as vu ta femme être arrachée par un homme, partir avec un homme sous tes yeux. Et tu portes la douleur. Tu portes cette douleur-là. Ou encore, tu as vu ton mari te laisser à la maison avec trois enfants et aller vivre ailleurs. Il ne t'appelle plus, l'a changé de numéro. Ça, ce sont les ruines émotionnelles. Mais bénissons le Seigneur parce qu'il faut les identifier et en sortir. Des ruines familiales. Il y a des blocages. Il y a des limites. Tu es dans une famille. La famille connaît des faiblesses, des blocages à tous les niveaux. Toutes les situations qui plongent la famille sont des situations désastreuses. Et tu ne sais à quel sens sauver et tu dis, Dieu, donc dans toutes les familles là, pourquoi toi tu m'as mis même dans ce genre de famille? Tu es même en train de vouloir régner ta famille. Et c'est comme ça que tu vas marcher en route. Tu vas voler les pères des gens. Tu vois le père de quelqu'un, tu dis, voilà mon père. Le fait de le dire, ça ne change pas ton vrai père, ta vraie famille. Il s'agit des ruines
des familles dans lesquelles il n'y a que dispute et dispute. Et tu te demandes, je vais être l'étoile de cette famille. En voulant te positionner comme l'étoile de cette famille, celui qui vient dans votre famille qui a un peu les moyens, tu veux faire de lui le fonctionnaire ou le capital de la famille. Et dès qu'il prend conscience, il vous abandonne tous et vous retombez dans les mêmes situations. Ce sont les ruines. Il y a des ruines spirituelles. Les ruines spirituelles, c'est des gens qui parlent toujours de leurs exploits dans le passé. C'est nous, quand nous avons créé cette paroisse, vraiment, on partait partout la prêcher. Aujourd'hui, demande-lui de citer même un verset biblique. Mais si tu lui demandes les chansons qui a la mode là, il va te donner tous les titres. Mais il dit que c'est nous. Il dit non, je priais, j'avais des nuits de prière. J'avais. Maintenant c'est moi. Ma vie, je te l'attends. Il ne parle que de ces choses dans le passé. Et certaines personnes sont même ici et vont dire, non, j'ai appris à être sage. Parce que dans ma famille, j'évangélisais tout le monde. Mais un jour, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Donc, comme on a travaillé sur mon village, et puis ce jour-là, j'ai compris qu'il faut quand même un peu mélanger. Ce sont les ruines spirituelles. Il y a des personnes qui ont tellement de Bibles à la maison. Ça, c'est le tombeau des ruines spirituelles. Vous arrivez chez eux. Je suis arrivé chez un monsieur comme ça. Il me dit, pasteur, moi, mais je suis chrétien. Hein? Regarde, il y a les Bibles. Voici, j'ai ma grosse Bible. Il va encore, il dit, non, j'avais acheté pour ma femme. Il prend, il vient avec. Il y a des maisons qui ont tellement de Bible. Mais le seul habitant ou le seul occupant de la Bible, c'est la poussière. Des Bibles qui ne sont jamais ouvertes. Et même quand elles sont ouvertes, elles ne sont pas mises en pratique. Ça, ce sont des ruines spirituelles. Alors, au-delà donc de toutes ces ruines qui viennent d'être évoquées, comment les mettre en valeur? Ou mettre en valeur ce qui reste de la ruine? Comment mettre en valeur des ruines émotionnelles? Ce qui reste de tes ruines émotionnelles? Tu as été blessé par un garçon, n'est-ce pas? Tu as même été abusé par lui, n'est-ce pas? Et tu commences à détester ton corps parce qu'il a pris ta virginité, n'est-ce pas? Ce qui reste là, tu le trouves, tu trouves que tu n'es plus belle. Je vais te dire qu'avant qu'il ne touche à ton corps, il y a quelqu'un avant lui qui a dit que tu es une merveilleuse créature. Et comme il a dit que tu es une merveilleuse créature, ce qui reste de toi a de la valeur. Et tu es capable de mettre cela en valeur. La meilleure manière de mettre cela en valeur, c'est de croire à cette parole de l'Écriture. Pour toutes les ruines, c'est le fondement. Lamentations 3, 22 à 23. Lamentation de Jérémie chapitre 3 versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est le point de départ pour t'engager à mettre en valeur une ruine. la bonté de Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Ta maison s'est écroulée. Dieu reste Dieu. Sa bonté pour toi n'a pas changé. Tu as commencé un chantier, les voleurs sont venus détruire. Ce n'est pas un problème. La bonté de Dieu pour toi n'a pas changé. Dieu change les saisons et les circonstances. Si sa bonté n'a pas changé, lui, il est capable de changer les saisons et les circonstances. Ça, c'est la deuxième chose. Tu es peut-être fatigué par des situations, désespéré, prêt à te jeter dans une aventure. Premièrement, parce que tu ne crois plus en ton potentiel. Tu ne crois plus à la valeur de ta famille. Tu crois que ta famille est une erreur. Non, ta famille n'est pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Lisons Ésaïe 40, verset 29. Allons-y un peu rapidement. Seigneur, conduis-moi vers ta présence. Viens dans le désert. Je lis pour nous. Il, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait quand tu es fatigué, quand tu es découragé, quand tu dis trop, c'est trop. Je n'en peux plus, je ne continue plus. Dieu dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Tes affaires ont chuté. Avant, tu étais le big boss de la famille. Quand tu arrivais au village comme ça, tout le monde accourait. Hein? On venait, tu sortais les cartons de savon, du riz, du bifaka, tu donnais. Les gens étaient contents. Et on parlait en bien de toi. Maintenant, quand tu arrives, personne ne vient même te dire bonjour. Personne. Et ça te traumatise. Non, tu as toujours de la valeur. Ta ruine peut faire que les gens te fuient. Mais Dieu, lui, ne te fuira jamais. Et tu as toujours de la valeur. Et tu es une valeur. L'ampleur de ta ruine ne doit pas t'ébranler. Et pour qu'elle ne t'ébranle pas, si tu es focalisé sur ta ruine, trois choses vont t'arriver. Première chose, tu vas avoir les palpitations du cœur. Deuxième chose, tu risques d'entrer là où tu ne devais pas entrer. Troisième et dernière chose, tu risques de piquer une crise mentale ou avoir un AVC. Ne sois pas focalisé sur ta ruine. Car la ruine est là pour te rappeler qu'il y a quelque chose à faire. Et non, passer le temps à t'apitoyer et dire, je vais encore devenir quoi? Vous savez que il y a des commerçants aujourd'hui, dès qu'on lit un homme comme ça, il dit, pasteur, j'avais 7 boutiques au marché Al. Quand le marché a pris feu, j'ai tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde. On m'a dit de faire ceci, de faire cela, d'aller laver ceci, d'aller couper ceci. J'ai tout fait ça. Il dit, ma femme qui gérait une boutique m'a abandonné. J'ai même supplié ma femme qu'elle me donne un peu dans son capital. Elle a refusé. Mes frères m'ont accusé que j'étais dans la sorcellerie. Voici mon seul frère qui m'a amené chez toi. C'est avec lui seul que je parle. Donc tout le monde parle plus avec moi. J'ai dit, ah bon, c'est ça ta situation? Donc tu as tout fait. Il dit oui, j'ai dit tout. J'ai dit, il reste une chose que tu n'as pas fait. Et c'est celle-là qui est la meilleure. Toi aussi, tu penses avoir tout fait. Tu as été trahi, tu as été rejeté, tu es abandonné. Tu as essayé à gauche, à droite, rien. Tu es fatigué. Je lui dis, il y a une chose que tu n'as pas fait. Cette chose-là se trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Il dit, mais j'ai la Bible depuis. Je dis que c'est là-bas. Tu vas faire la chose-là et tu vas comprendre. Beaucoup qui restent focalisés sur leur ruine ne se relèvent. On a lu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as voulu porter les choses qui te dépassent, ça va t'écraser. Il y a quelqu'un qui peut porter ça pour toi. Répands-toi, dis-lui que vraiment, ma situation est catastrophique. Je te la donne. Je te la cède. Je ne veux plus faire un effort sur cette situation-là. Toi, tu la prends. On a prié. On a continué à travailler. Il dit, mais comment tu te sens? Il dit, pasteur, je suis léger. Léger, il y a quelque chose qui se passe. On a travaillé. Après 6 mois, quelqu'un qui lui devait de l'argent, il y a de cela 7 ans, l'a appelé pour lui dire, mon frère, tu sais, vraiment, j'avais pris ton argent, depuis là, je cherchais comment te... Il dit que, pardon? Je cherchais comment te retrouver et tout. Où est-ce que je te retrouve? Il dit, dis-moi plutôt où tu es. Moi, je te retrouve. Et il lui dit, il m'appelle pour me dire, non, je suis en train d'aller quelque part. Je prie seulement pour moi. Quand je serai là-bas, je vais t'appeler là pour te dire la suite. Il est arrivé. Le monsieur lui dit, vraiment, je devais 3,5 millions. J'ai eu à faire des affaires et ça marchait. Et j'ai dit, pour le bien que tu m'as fait, je ne peux pas garder ton argent. Parce que je sais que ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toi. Je vais te remettre ton argent. Il dit qu'il était comme dans un rêve. Il était comme dans un rêve. Il est resté longtemps. Il n'a pas dit un mot. Le monsieur était aussi embêté. Il dit, j'espère que tu me pardonnes. Il dit que non, 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 ça va. C'est là où il revient. Il réalise que en fait, c'est vrai. Alors, le monsieur lui dit, bon, je fais comment? Je mets dans un compte. Il dit que tu mets dans quel compte? Donne-moi. Il est rentré avec son argent. Il m'appelle, il me dit, pasteur, j'arrive, même si tu dors, on va s'asseoir, je vais te raconter. Il t'a raconté comme je viens de vous. Nous sommes assis. On a prié, il n'est pas parti avec toi. Il a laissé les 3,5 millions chez moi. Il a dit, pasteur, quand j'aurai planifié ce que
Dieu veut que je fasse, je reviendrai chercher. C'est la résolution que j'ai prise quand j'étais en route. Moi, alors, je n'avais jamais gardé 3 millions 5. Alors, mais j'étais très content pour lui. Et j'ai gardé. L'endemain, je suis allé mettre quelque part. Et il a planifié. Il est revenu prendre son argent. Vous savez ce qu'il a fait? Donc, si je vous dis l'autre là, vous ne serez pas content. Mais vous serez quand même content parce qu'il a fait quelque chose de bien. Il a pris 500 000, a dit, pasteur, hein, ça c'est pour toi. L'autre, si je vais faire les choses que Dieu a mis là. Et il est parti avec. Aujourd'hui, il a, à Douala, il a deux boutiques. À Bamenda, on l'a seulement chassé parce que les choses l'ont chassé là-bas. Il est parti. Ici, il a encore deux boutiques. Vous savez ce que sa femme a fait? Sa femme l'appelle pour lui dire que non, on l'avait mal conseillé, on l'a induit en erreur. Il dit, j'ai compris, je t'ai pardonné et je veux vivre maintenant de la vie que Dieu me donne. Il est heureux. Alors, j'ai pris le temps pour cette histoire pour vous dire que si vous êtes focalisé sur vos ruines, vous ne pouvez pas avancer. Il y a quelqu'un qui doit vous décharger. Il y a des choses qui vont toujours vous dépasser. Mais si vous voulez les porter sur vous, vous ne pouvez pas vous relever. Vous avez besoin de Jésus pour être relevé. Quelle qu'en soit l'ampleur de la ruine, quel qu'en soit ce que tu as perdu après avoir identifié les ruines, l'amour de Dieu pour toi ne change pas. Tu as blessé des gens souffrent émotionnellement parce que tu as leur chance, tu les dois de l'argent, partout tu es endetté. Tu es endetté, tu as un comportement, tu insultes les gens. Ça sont des ruines morales. Viens avec ça à Jésus. Tu dis, voici ma ruine. Avant, je n'étais pas méchant. Je n'étais pas cruel. Je n'étais pas perverse. Je viens te la déposer. L'amour de Dieu pour toi ne change pas. Il va au-delà de ce que ta ruine représente. Être en vie, c'est une bonne nouvelle. Quand tu connais les ruines et que tu es en vie, Dieu est en train de te dire, tout n'est pas terminé. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Et c'est ce que nous allons apprendre maintenant, comment rebâtir sur ancienne ruine. Premièrement, il faut prendre conscience de l'état de la ruine. Je vais aller très rapidement parce que le temps est déjà très avancé. Mon ami, il ne faut pas nier quand tu as échoué. Il ne faut pas nier qu'il y a la ruine. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu as construit ta maison, la tornade a renversé. Il ne faut pas nier le fait que la tornade là a renversé. Avant, tu étais avec ton mari, tu étais bien. Maintenant qu'il est parti, tu as le chagrin dans le cœur. Ne nie pas le fait que ton mari est mort. Si tu veux pleurer, pleure. Ne dis pas que ça fait quoi? Déjà, ça ne fait rien. Après, tu vas te cacher quelque part. Tu commences à pleurer. Ne nie pas le fait qu'il y a la ruine que son départ, il y a quelque chose qui est parti. Il y a quelque chose qui a été détruit. Et que tu as besoin d'être relevé. Tu as besoin de rebâtir suite à son départ. Ne nie pas ce fait. Si tu nies ce fait-là, tu es mal parti. Si tu nies ce fait, trois choses. Tu vas marcher en route. Tu vas dire, j'ai même qui derrière moi. Je suis moi comme ça. Je n'ai moi personne. Quand tes enfants vont faire quelque chose, tu vas dire, vous faites ça parce que votre père n'est plus là. Qui peut même encore parler? Et la dernière des choses, la plus pire que tu pourras faire, tu vas même me laver.
Il ne faut pas nier. Il faut prendre conscience de l'état de ta ruine. Et lorsque tu as pris conscience de l'état de ta ruine, tu n'es pas une épave. Tu n'es pas une épave ou bien une voiture qui est hors série. Non. Tu es encore en circulation, en série. Tu n'es pas une épave. Ça, c'est la seconde chose. Deuxième chose, ne néglige pas ta responsabilité dans la ruine. Non, il ne faut pas négliger ta responsabilité dans la ruine. Si elle existe, il ne faut pas forcer si elle n'existe pas. Refuse de prendre ta situation comme une fatalité, comme une malédiction, comme une tragédie. Et que vraiment, c'est les autres qui ne te veulent pas du bien. Non, ta situation n'est pas désespérée. Ce n'est pas une fatalité. Refuse également de passer le temps à te plaindre et d'accuser les autres. Mais souviens-toi d'où tu es tombé. Là où tu es tombé, souviens-toi. Souviens-toi et relève-toi. Si le souvenir te renvoie à la mémoire, elle appelle également à une prise de conscience de là où tu es tombé et de te relever. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Refuse de croiser les bras. Proverbe chapitre 6, les versets 6 à 9, dit que paresseux, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra. Refuse de croiser les bras. Refuse de ne rien faire. Engage-toi dans quelque chose avec Dieu. Et engage-toi à rebâtir avec lui. Proverbe 14, 23 nous dit que tout travail procure le bonheur et l'abondance. Si tu ne travailles pas sur la base des anciennes ruines, tu ne peux pas voir, connaître le bonheur attaché à tout cela. Je voudrais terminer en disant, identifie et détruis tout ce qui a été mauvais dans ton passé. Que ce soit au plan émotionnel, que ce soit au plan familial, que ce soit au plan moral, au plan spirituel, détruis. Détruis tout. Ce qui a été mauvais dans ton passé. J'ai pas assez de temps, mais je voudrais dire aux gens, au plan émotionnel, si tu as reçu quelque chose de quelqu'un
pour qui tu portes une blessure émotionnelle, je t'encourage à détruire. Je t'encourage à détruire et à pardonner la personne. Quel qu'en soit ce que tu as reçu, je t'encourage à détruire. Je voudrais maintenant terminer avec quelques passages qui nous parlent de la promesse de Dieu. Dieu dit dans Agée chapitre 1 verset 2, le temps est venu, le temps est venu de bâtir vos demeures l'âme brisée, de rebâtir. Le temps est venu. Je vais trouver Agée chapitre 2, 1 verset 2. Je tiens vraiment à le lire pour nous. Si quelqu'un l'a trouvé, le lit rapidement. Agée chapitre 1, verset 2. Bon, si vous ne l'avez pas trouvé, je vais le lire. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps est venu. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Oui, le temps est venu maintenant de rebâtir tout ce qui a été détruit dans ta vie. Ésaïe 44, verset 26. Vous pouvez noter, hein? Vous pouvez noter Ézéchiel 36, verset 10. Amos 9, verset 14. Et enfin, Ésaïe 58, verset 12. Je vais uniquement lire Ésaïe 58, verset 12. Là, Dieu dit que si tu t'engages à rebâtir sur d'anciennes ruines, il te donne un nom nouveau. Il t'appelle d'un nom nouveau. Là, il est écrit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations, des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitat. Réparateur des brèches, celui qui rend le pays habitat. Tu peux rendre ta ruine habitat. Tu peux rendre ta famille habitat. Tu peux rendre ton pays habitat. Ta propre vie qui a été détruite, elle peut encore être un fleuron à la gloire de Dieu. Amen. On va se lever pour la prière.
Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Jésus.
Bien-aimé, sur la base de ce chant, dis à Jésus ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Si tu as identifié tes ruines, Jésus dit que tes ruines ne sont pas la fin, mais il veut se servir de tes ruines. Dis à Jésus ce que tu veux le voir faire dans ta vie. Secouru, nous pardonnons
Dis merci à Jésus pour les ruines qu'il t'a révélées ce soir. Dis-lui merci et que tu as compris que ce n'était pas la fin. Dis à Jésus que tu as vu ta ruine, tu as même vu ta responsabilité et qu'à ses pieds, tu viens tout déposer. Dis à Jésus que tu veux rebâtir sur d'anciennes ruines avec lui, parce que tu l'as souvent fait sans lui. Parle à Jésus de la dimension spirituelle que tu vas avoir en regardant tes ruines spirituelles. Parle à Jésus de ta famille. Dis à Jésus ce que tu veux voir partir des ruines de ta famille pour bâtir. Glorieux Sauveur, je te rends grâce, je te bénis, parce que tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Même nos ruines ne peuvent pas te faire changer. Et ce soir, tu nous as révélé que nos ruines ne sont pas la fin. Tu nous invites à bâtir sur d'anciennes ruines, parce que tu veux que nous nous servons de nos ruines pour aller au-delà de nos limites. Seigneur Jésus, je te prie pour mon frère, pour ma soeur qui était fatigué, qui était désespéré, qui était fatigué, découragé, déçu, parce qu'elle a formé beaucoup de projets et ses projets ont échoué. Elle a reçu beaucoup de promesses et ses promesses sont tombées dans l'eau. Seigneur, seule ta promesse est véritable et tu veilles sur la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Accomplis fidèlement tes promesses dans les vies de tes serviteurs et de tes servantes ici rassemblées. Seigneur, des personnes que nous avons blessées, que nous avons trahies émotionnellement, des personnes que nous avons abusées sexuellement, des avortements que nous avons commis et qui ont entamé notre physique. Oh Seigneur, qu'un jour nouveau se lève. Qu'un jour nouveau s'élève dans notre vie. Qu'un jour nouveau s'élève dans notre foyer. Qu'un jour nouveau s'élève dans notre destinée. Seigneur, je t'en supplie. Déchire le voile. Déchire le voile de l'entêtement. Déchire le voile des sentiers qui ne t'ont pas honoré. Déchire le voile de l'immoralité.
Rebâtir,
afin de faire de nous de véritables adorateurs, afin de faire de nous des véritables adorateurs. Oui Seigneur, si tu ne nous rebâtis, si tu ne nous recrées, si tu ne nous donnes un cœur nouveau pour rebâtir sur d'anciennes ruines, nous serons incapables d'être des adorateurs selon ton cœur. Sois béni.
Que de moi il ne reste rien, rien que te plaire, te satisfaire. Que tout mon cœur te soit contrit, que je sois intègre dans ma vie, pour que tout en moi puisse te glorifier. Tes mains, mon divin potier. tout en moi puisse te glorifier. Qu'aucune faiblesse ne vienne t'attrister. Je remets tout entre tes mains, mon divin.
Je remets tout entre tes mains. Je remets tout entre tes mains.
Sois désormais de ta gloire le seul reflet. Voici mon cœur, voici mon âme. Que je sente ta main sur moi me façonner comme autrefois. Mon